À l'écoute de Radio France Internationale, il est 22h à Paris, 21h en temps universel.
Martin Guez.
Au Proche-Orient, le Qatar confirme la suspension de sa médiation entre Israël et le Hamas. L'Émirat jette l'éponge, les négociations sont à l'arrêt, l'espoir d'un cessez-le-feu s'éloigne. Aux États-Unis, après l'élection de Donald Trump, l'Iran s'inquiète et fait un pas vers son vieil ennemi américain. En Ukraine, le chef de la diplomatie, Josep Borrell, assure Kiev de son soutien indéfectible, et ce quelques jours avant de quitter son poste. Enfin, un grand samedi de sport, rugby et football, en fin de journal.
RFI.
Au Proche-Orient, le Qatar retire sa médiation envers Israël et le Hamas palestinien. Après des mois d'efforts diplomatiques infructueux pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, avec les États-Unis et l'Égypte, le Qatar avait mené une médiation menant à une trêve en novembre 2023 qui avait duré une semaine et qui avait permis la libération d'otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens. Mais depuis, plus rien. L'Émirat du Golfe hébergeait aussi jusqu'ici le bureau de l'organisation palestinienne responsable de l'attaque du 7 octobre 2023 contre Israël, le bureau du Hamas qui n'a plus de raison d'être selon les Qatariens. Pierre-Olivier.
Israël et le Hamas sont prévenus, assure Doha. L'Émirat ne jouera plus les intermédiaires tant que les deux camps refusent de négocier un accord de bonne foi, explique une source diplomatique. Terminée donc la médiation du Qatar pour mettre fin à la guerre après de nombreuses sessions de négociations infructueuses. En conséquence, le bureau politique du Hamas, qui était depuis plus de 10 ans à Doha, n'a plus de raison d'être, précise cette même source, et n'est donc plus le bienvenu sur son sol. C'est maintenant vers la Turquie ou l'Iran que pourrait se tourner l'organisation pour être hébergée à l'avenir. Cette décision du Qatar intervient après que l'administration de Joe Biden a fortement fait pression sur son allié pour qu'il défasse ses liens avec le Hamas, estimant que la médiation de l'Émirat n'avait pas porté ses fruits en l'absence de tout accord. Pour assurer la future médiation entre l'État hébreu et l'organisation palestinienne, les regards se tournent désormais vers l'Égypte, alors que 63 otages israéliens sont toujours détenus par le Hamas et que la guerre a fait plus de 43 500 morts à Gaza, selon l'organisation.
Les explications de Pierre-Olivier et ce soir des Israéliens rassemblés à Tel Aviv ont exprimé leur inquiétude quant au sort des otages après la suspension de sa médiation du Qatar au 400e jour de la guerre déclenchée par le Hamas. Proche-Orient toujours, et au moins 31 personnes ont été tuées ce samedi soir dans l'est du Liban lors de bombardements israéliens. Au lendemain d'un vendredi déjà sanglant, 19 morts hier dans le pays lors de raids de l'État hébreu. Selon le ministère libanais de la Santé, 7 personnes sont mortes dans la ville de Tyr, dont 2 enfants et 6 secouristes ont péri au sud de Beyrouth. Au total, les attaques israéliennes ont fait plus de 3000 morts au Liban depuis le début de l'offensive le 23 septembre dernier. Aux États-Unis, à présent, l'actuel président Joe Biden recevra son successeur Donald Trump à la Maison-Blanche ce mercredi dans le bureau ovale, comme l'a annoncé la porte-parole Karine Jean-Pierre. Les deux hommes qui doivent préparer l'arrivée de la prochaine administration républicaine et qui doivent discuter des futurs rôles de figure comme l'entrepreneur Elon Musk. Et puis les États-Unis, qui, on vous en parlait hier, accusent l'Iran d'être impliqué dans un projet d'assassinat du nouveau président Donald Trump. Accusation totalement infondée, selon Téhéran. L'Iran qui a adressé ce samedi un signal d'ouverture aux États-Unis en appelant Donald Trump à adopter une nouvelle politique à son égard. Une nouvelle donne qui serait liée à la volonté de Trump de ne pas commencer de nouvelles guerres, selon Hassani Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève.
Les Iraniens n'ont jamais souhaité la victoire de Trump. Ils se souviennent de sa politique de la pression maximale qui a coûté cher à l'économie iranienne, mais aussi a retardé aussi les projets iraniens. Mais l'arrivée de Trump en force les inquiète, mais les pousse aussi à essayer de rétablir des relations avec sa nouvelle administration en se basant sur les déclarations électorales de Trump, qui ne sera pas un homme de guerre, mais plutôt l'homme qui va mettre fin aux guerres et aux conflits dans la région. Et c'est pourquoi les Iraniens veulent plutôt anticiper toute décision américaine en envoyant des messages aux Américains, surtout à l'administration Trump, pour dire qu'ils sont prêts à toute discussion, à toute négociation. Et je pense que l'administration de Trump sera sensible à ce message.
Hassani Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Et puis Genève toujours, Ngozi Ogonjo Iweala devrait rester à la tête de l'OMC, première femme et première africaine à diriger l'Organisation mondiale du commerce. La Nigériane, qui est la seule candidate à sa propre succession. Son premier mandat s'achève le 31 août 2025. La directrice générale de 70 ans, qui avait pris ses fonctions en mars 2021, sa désignation pour son premier mandat, qui avait été bloquée pendant des mois par Donald Trump, à l'époque où il était déjà président des États-Unis. Ngozi Okonjo-Iweala qui avait annoncé dès la mi-septembre qu'elle briguait un second mandat à la tête de cette organisation. Puis l'actualité africaine, à présent, est au Nigeria. Des hommes armés ont tué 15 personnes dans un village du nord-ouest du pays, indique ce samedi le gouvernorat local, faisant état de l'émergence d'un nouveau groupe djihadiste de la région. Un assaut mené à Mera, dans l'état de Kebbi, à environ 50 km de la frontière nigérienne. Les autorités locales soupçonnent la Kurawa, nouveau groupe islamique constitué d'hommes venus du Mali et du Niger qui auraient traversé la frontière nigérienne. L'actualité africaine sur laquelle nous reviendrons à 22h30 TU pour la dernière édition d'Afrique Soir, ce sera avec Sylvie Berruet. RFI, 1h05 du matin à Bakou, en Azerbaïdjan, où la COP29 sur le climat s'ouvre ce lundi, en présence de l'Afghanistan. Une première depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021. Une délégation du gouvernement afghan sera bien à Bakou, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du pays. Les autorités talibanes, qui ne sont reconnues par aucun pays au monde, ne cessent de plaider pour être associées aux discussions internationales sur le climat. L'Afghanistan étant en effet répertorié comme le 6e pays le plus vulnérable au changement climatique. Direction Kiev, à présent en Ukraine, où le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, était en visite ce samedi pour assurer aux Ukrainiens le soutien indéfectible de Bruxelles. Et ce alors que l'élection de Donald Trump aux États-Unis inquiète en Ukraine et en Europe sur la suite du conflit avec la Russie. Josep Borrell, qui doit quitter ses fonctions le mois prochain, mais qui a maintenu son cap avant de mettre les voiles.
This is a visit with a clear purpose.
C'est une visite avec un objectif clair, émanant directement du Conseil européen qui s'est tenu à Budapest et après l'élection américaine. L'objectif clair de cette visite, c'est de souligner le soutien de l'Europe à l'Ukraine. Ce soutien reste inaltérable. Ce soutien est absolument indispensable pour que vous puissiez continuer à vous défendre contre l'agression russe.
Josep Borrell, chef de la diplomatie de l'Union européenne, lors de sa visite à Kiev ce samedi. L'actualité en Europe et des milliers de personnes dans la rue en Espagne, à Valence, criant « assassin » et réclamant la démission du président de région Carlos Mazón. La colère ne redescend pas, 10 jours après les inondations qui ont fait plus de 220 morts dans le sud-est du pays. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Dans le viseur également des manifestants, le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez. Les deux hommes sont accusés d'avoir sous-estimé les risques et mal coordonné les secours après les terribles inondations du 29 octobre. Et puis enfin en Allemagne, le pays est entré en période électorale et ce n'était pas vraiment prévu. En pleine crise politique, des élections rapides sont réclamées par l'opposition et par le monde économique. Et ce après le retentissant limogeage du ministre libéral des Finances par le chancelier Olaf Scholz, qui a fait imploser sa propre coalition en milieu de semaine. Désormais, la date des futures élections est au centre du débat politique dans le pays. Correspondance de Nathalie Versieux.
Pour Olaf Scholz, les élections doivent avoir lieu en mars. Mars, c'est-à-dire après les régionales de Hambourg, un fief de son parti dont il espère un coup de pouce pour les législatives. Son rival conservateur Friedrich Merz veut au contraire un scrutin dès janvier. Son parti, la CDU, se serait depuis longtemps préparé au scénario d'élections anticipées. Le programme électoral serait déjà dans les tiroirs, une liste de candidats aussi, et les sondages lui sont favorables. La date des prochaines élections sera donc dans les prochains jours l'objet d'âpres négociations à Berlin. Olaf Scholz est prêt au compromis, a-t-il assuré hier depuis le Conseil européen de Budapest, à la condition toutefois que les chrétiens démocrates l'aident à faire passer au Parlement quelques réformes d'ici la fin de l'année, des promesses électorales qui souhaitent tenir avant les élections, notamment la stabilisation du niveau des retraites qui lui permettrait de marquer des points dans un pays vieillissant. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
Et comme promis, on termine sur les terrains de sport, ceux de rugby d'abord. Et la France qui accueille le Japon en test match. La France qui se promène à la pause au Stade de France, les hommes de Fabien Galthié, qui mènent pour l'instant 31-0 grâce à 5 essais rapidement inscrits. Et puis, énorme choc en revanche à Twickenham, où l'Angleterre recevait aujourd'hui l'Australie. Chaque équipe a marqué 5 essais. Mais ce sont bien les Wallabies qui l'emportent finalement sur le 15 de la Rose, 42-37 en terre anglaise. Et puis en football, le PSG qui déroule sur la pelouse d'Angers. Maladroit en Ligue des Champions, les Parisiens qui se rattrapent en championnat, qui se font plaisir. Ils menaient même 4-0 à la mi-temps grâce à des doublés de Kangin Lee et de Bradley Barcola, le match qui vient de reprendre. Et puis enfin en Angleterre, rien ne va plus à Manchester City qui enchaîne une 4e défaite consécutive, toute compétition confondue. Les Sky Blues battus 2-1 par Brighton en Angleterre et ce malgré un nouveau but d'Erling Haaland. C'est la fin du journal, excellente soirée à l'écoute de RFI, tout de suite ici l'Europe.